D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numero 1.
This is Europe number 1.
Jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidables. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidables.
Salut les copains. Salut les copains.
L'émission de Daniel Philippe.
Alors, ne tirez pas.
Du cœur au boulot, wow, wow, Mélanie Parade, Gérard Klein.
Troisième but, 3-0, ensemble, nous sommes, ils sont, tous ensemble, la France entière est championne du monde de football, historique.
Europe 1, découverte, Europe 1.
We copy you down, Eagle, you're looking good here.
Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile de Sieur.
Pulpeux comme la pêche.
Marc Tronchot.
Et merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Bienvenue au Club des Enfants d'Europe 1. En ce jour de fête nationale, j'ai choisi assez naturellement de vous faire entendre, découvrir, redécouvrir de grands moments d'histoire et donc sur Europe 1, de grands moments d'information. Pas des documents ultra connus, mais des plus confidentiels parfois et qui ont à leur façon illustré l'information. L'information dont, dès sa naissance, Europe 1 va complètement relooker le traitement pour le rendre moins figé, moins conventionnel, moins conformiste, moins dépendant des pouvoirs en place. Europe 1 impose un style, une liberté de ton, fait vivre le reportage, ce qui fait la différence avec les médias de cette fin des années 50, et donne à la station l'image et la notoriété d'une spécialiste de l'info, image et notoriété qui ne l'ont jamais quittée, c'est aujourd'hui inscrit dans son patrimoine génétique. Ce que je vous propose d'entendre par exemple tout de suite est un exemple de ce qui, en 1955, n'était pas forcément monnaie courante. Le reportage sur le départ de Paris de Mohamed V, destination le Maroc, qui vient de négocier avec succès son indépendance. Il est accompagné de ses deux fils et la traduction est assurée par le futur Hassan II.
Précédé de motocyclistes, de la gendarmerie, le cortège du sultan fait son entrée sur l'aérodrome. Il est 8h moins 10 et le jour est levé depuis quelques instants seulement. Le sultan descend de voiture, il est vêtu d'une djellaba et d'un calot gris-bleu. Avant son départ, Sa Majesté a bien voulu me faire une déclaration exclusive. Elle est traduite par son fils, le prince Moulay Hassan.
دائما كنت يعمل يستقبلنا باقتبال حار عمرو ما نسى الشخصية ديالنا ولو بعد عامين ديال المنفى ولهذا كذلك حنا ولا المغرب عمرو ما ينسى عمرنا ما نساو الاقتبالات ولا الحفاوة اللي قامت بها الحكومة الفرنسية مع شخصنا وكذلك الشعب الفرنسي بنفسه.
Ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir que malgré deux ans d'exil et de séparation, je retrouvais auprès du peuple français le même accueil chaleureux que celui que j'avais rencontré il y a quelques années. Cela prouve que le peuple français a fait sienne et les heures qu'a traversé le peuple marocain et qu'ils ont régné entre une identité de vue et une communion de sentiments qui me fait augurer beaucoup de l'avenir. Et je sais que la façon dont le gouvernement français m'a reçu, comme la population française, ira droit au cœur des Marocains. Et c'est pour ça que je souhaite au peuple français le bonheur et la prospérité.
أظهر العالم أجمع بمحبته هذا الشعب ليا وبمحبتي أنا للشعب المغربي الذي هو أعز ما عندي في حياتي.
À l'heure où je vais prendre l'avion pour le Maroc, je tiens à dire que ce qui est le plus cher à mon cœur, c'est mon peuple, ce peuple qui s'est dévoué pour moi d'une façon si éclatante qu'elle a fait l'admiration du monde entier. Et quant à ce qui me concerne, je me suis donné à lui et je remarque avec une grande fierté qu'il me fait l'honneur de se donner à moi. Et c'est pour cela que je considère que le plus grand jour de ma vie sera celui de demain, et que la chose qui m'est le, et que ce qui m'est le plus cher au cœur et au monde, c'est encore mon peuple.
Merci, je sais. Merci, Abdel.
Deux grands professionnels de l'information pour m'accompagner ce matin, pour vous faire partager leur expérience et peut-être nous suggérer l'avenir. François Poncelet, journaliste indépendant, ex-grand reporter européen, ex-patron du service reportage. Et Jacques Duquesne, longtemps chroniqueur sur cette antenne, écrivain à succès, journaliste, patron de presse, ancien président de l'hebdomadaire Le Point notamment, et enfant d'Europe 1, je peux dire ça Jacques ?
Ah tout à fait, oui, parce que bon, j'étais journaliste de l'écrit moi, mais... J'ai vu la naissance d'Europe 1, j'ai entendu la naissance d'Europe 1, il faut bien voir ce que c'était auparavant. Il y avait par exemple Paris Inter, l'ancêtre de France Inter, où il y avait un speaker, les journalistes ne parlaient pas eux-mêmes au micro, c'était un speaker qui lisait des textes comme ça, avec un ton très comédie française, ancienne époque, comme ça, c'est... quoi qu'il arrive, si c'était dramatique, si c'était joyeux, c'est toujours le même ton, imperturbable.
Un peu à la soviétique, non ?
Ouais, ouais, un peu à la soviétique, ouais, c'était ennuyeux au possible, bon.
Donc nous on a mis un peu de vie là-dedans.
Et tout d'un coup, paf ! Voilà des gens qui parlaient, des journalistes qui parlaient au micro eux-mêmes, qui étaient sur le coup, sur l'actualité, comme ce qu'on vient d'entendre de Mohamed V en 55, qui est rentré de 2 années d'exil à Madagascar, où la France l'a émis, elle l'avait exilé en 53, et en 55, le voilà qui rentre, et Europe 1, là, tout de suite, là, en direct, eh bien, c'était ça
Et traduit par le futur Hassan II.
Qui était lui, et qui avait été élève pendant ce temps-là à Rouen, je crois bien.
Mohamed V, justement, traduit au micro, bon, c'était quelque chose qu'on ne devait pas avoir beaucoup entendu sur les ondes. Ça vous inspire quel commentaire, François ?
Ben moi, je trouve que effectivement, c'était une grande nouveauté pour l'époque. Et je voudrais vous évoquer un souvenir personnel à propos de Mohamed V, qui se trouve et qui a été un peu à l'origine de ma carrière de journaliste. Il se trouve qu'à l'époque, mon père était administrateur à Brazzaville, et moi, j'étais passionné d'aviation. J'allais tout le temps à l'aéroport de Mayamaya. Et un jour, il y a un DC-6 qui a atterri à Brazzaville. C'était l'avion de Mohamed V. Qui partait en exil en Afrique du Sud. Et il a fait une escale, il est reparti, et j'ai assisté à son décollage. Et cet avion m'avait paru tellement lourd que je me suis dit, c'est pas possible, il va jamais arriver à décoller, il doit être chargé d'or. Et il va avoir un accident. Et c'était, pour moi, la mythologie du roi qui partait en exil en emportant son or, comme le Shah d'Iran quelques années plus tard. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, je vois des accidents d'avion partout, je vois des catastrophes, donc peut-être que j'ai une vocation de journaliste.
Mohamed V, on va le suivre, on est toujours en 55, on va le suivre à Rabat, puisque à son arrivée, Europe 1 est également là.
Ici Gilbert Lozin qui vous parle de Rabat. Je suis en ce moment sur le terrain de Rabat Salé. Il est exactement 11h35 GMT et l'avion qui ramène de Paris, de Saint-Germain, le sultan Mohamed V vient de se poser sur le terrain.
Malgré le service d'ordre très nombreux, il y a maintenant une cohue indéceptible autour du sultan. Le service d'ordre fait par l'armée, ici sur le terrain d'aviation, est nettement débordé. La foule essaye de déborder le service d'ordre pour l'instant, essaye d'approcher du sultan.
Celui-ci quitte maintenant l'aérodrome sous les acclamations de la foule.
Le sultan regagne maintenant l'intérieur du palais où je vais tenter de le suivre. Mêlé à une délégation de notables, je suis maintenant dans la cour intérieure, la grande cour du palais impérial.
À l'intérieur de la grande cour du palais impérial, un spectacle très picaré se produit maintenant. Voici la voiture du sultan qui passe devant moi, qui traverse la cour à sa droite et à sa gauche sont placés ses deux fils. Derrière eux, la garde impériale tout entière, la garde noire. Je suis maintenant, comme vous pouvez l'entendre certainement, en plein milieu de l'orchestre et j'essaye d'apercevoir par où le sultan s'en va.
Le sultan et ses deux fils viennent de descendre de voiture, les deux princes se sont retirés un peu et le sultan entre maintenant, une grille se ferme derrière lui, il a regagné son palais impérial.
Jacques, c'est un petit peu ce que tu disais, c'est la magie de la radio. On entend tous les sons, les avertisseurs de voiture, on pénètre quasiment en même temps que Mohamed V dans son palais. C'est vraiment une révolution en matière, j'allais dire, de technique du son aussi.
Absolu, parce que on est sur place avec est-ce que le son permet, est-ce que la télévision ne permet pas toujours, parce que bon, c'est un équipement un peu plus lourd, la télévision, bon, elle sert mieux, mais quand même, c'est un équipement plus lourd, tandis que la radio, il y a un personnage avec un micro, et puis avec ce qu'on appelait à l'époque un agra.
On l'appelle toujours
un agra.
C'était lourd, les nagras, c'était très
au début. Maintenant, ils sont devenus tout petits. Mais les nagras, bon, c'était quelque chose que les gens portaient sur l'épaule, donc ils étaient mobiles. Et Europe 1 a beaucoup utilisé cela, alors que les radios traditionnelles, à l'époque, c'était encore des voitures avec tout un équipement, tandis qu'Europe 1, bon, il y avait un bonhomme tout seul, bon, il était peut-être en voiture au départ, mais après, il se baladait avec son agra, et puis il allait sur le terrain, comme on vient de l'entendre là, le monsieur qui essaie de suivre dans le palais le sultan de Mohamed V.
12 kilos le nagra, je m'en souviens bien.
Alors les filles qui portaient des agras, moi, c'était horreur, parce que vous avez des jolies filles comme ça, Europe 1 a toujours eu des jolies filles. Hein. Et alors, elles partaient avec leur nagra, comme ça, elles étaient de travers. Là, je regrette qu'il n'y ait pas la télé, parce qu'on me verrait
de travers,
penchée,
oui.
Comme ça, de travers. Elles étaient de travers, je me disais, les pauvres filles, j'avais envie de les aider, comme ça, elles soulevaient le nagra.
Mais c'est vrai, Marc, que le son a toujours été l'obsession des reporters. Hein. Il y a une époque où on faisait de la radio, on enregistrait des papiers, bien dans un studio, sans aucune ambiance, sans rien du tout. Et ça, ça a été la vraie évolution, la vraie révolution apportée par Europe, c'est-à-dire de penser en priorité aux documents, au son. Et de façon à faire, je dirais pas de la radio en image, mais à donner l'ambiance qui était sur place et à la faire vivre. Et ça, ça a été la force de la radio par rapport effectivement à ce que disait Jacques de la télé à l'époque.
Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, on avait peut-être un rapport avec sa radio qui est peut-être le même que celui qu'on a aujourd'hui avec sa télé.
Ah ben la radio, elle suivait partout. D'abord, la radio pouvait être dans la cuisine, ce qui pour la télé n'existe pas toujours, c'est vrai. Et Europe 1 des débuts, c'était Music and News, comme on disait, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'animateurs comme ça qui faisaient une heure, deux heures à présenter des disques, et puis un flash à chaque heure, pratiquement. Puis quand il y avait l'actualité qu'ils décidaient, tout d'un coup, on a interrompu tout, et on démarrait immédiatement. Et tout à l'heure, je parlais des filles avec les nagras. Là, je voudrais un peu rappeler que Europe 1 était une des premières stations à avoir tant de journalistes filles. Il n'y en avait pratiquement nulle part ailleurs des journalistes femmes.
Hein. Bah, vous avez... Oh, Europe 1 était quand même à une certaine époque une radio plutôt misogyne.
Ah, dans la direction, bien sûr. Enfin.
Bon, en tous les cas, est-on marqué, Jacques? Ça paraît évident.
C'était agréable dans une rédaction de voir des jolies filles. Mais...
La tendance est inversée aujourd'hui, Marc. Hein.
Absolument. On retrouve les enfants d'Europe 1, qu'ils soient garçons ou filles, dans quelques instants.
Les enfants d'Europe 1 avec Marc Tronchot qui reçoit Jacques Duquesne et François Ponchelet.
Alors Jacques et François, il y a un autre type d'histoire plus anecdotique, mais fort populaire, c'est l'histoire des princes et des princesses. Alors en 56, l'actualité du Gotha, c'est le futur couple que forment Régnier de Monaco et Grace Kelly. C'est un de ces moments privilégiés où chacun, grâce à la radio, pénètre l'intimité d'un souverain, d'un roi, d'un président, d'un prince de Monaco, par exemple dans la cabine du transatlantique qu'il ramène des États-Unis et là... Il y a un journaliste d'Europe.
Mon Altesse Sérénissime, le prince Régnier, prince de Monaco, a bien voulu me recevoir dans sa cabine. Monseigneur, je tiens à vous remettre au nom d'Europe numéro 1 un disque spécialement enregistré à votre intention par la direction d'Europe numéro 1 qui, vous devez le savoir, prépare ce qu'on appelle le bouquet de la princesse. Ce bouquet est un ensemble de fleurs, de petites fleurs qui ont été cueillies par tous les enfants de France et qui sera remis le jour de votre mariage à votre femme. Monseigneur, je voudrais vous demander comment s'est passé votre voyage puisque c'est une question traditionnelle, un peu bateau, certainement un peu banale. Mais enfin, je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps.
D'abord, je voudrais vous remercier et remercier surtout Europe numéro 1 de son initiative que je trouve très touchante et qui, quand j'en ai parlé à Miss Kelly, l'a infiniment touchée, évidemment. Je trouve que l'idée de recueillir ces fleurs cueillies par les enfants de France est vraiment très sympathique et je crois que c'est une manifestation qui marquera d'une façon touchante les événements qui vont commémorer le mariage. Vous me demandez comment s'est passé le voyage. L'île de France est un magnifique paquebot, comme vous le savez. Et malgré une mer assez mauvaise, nous avons été quand même un petit peu, comme on appelle, chahutés. Mais sur ce bateau, ça se sent peu. Comparativement, je crois même à des bateaux plus récents.
Vous savez que votre histoire d'amour est la plus belle histoire que nous connaissions en France. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter la façon dont vous vous êtes rencontré avec Miss Kelly, car ça nous passionne tous.
Vous êtes très gentil, et c'est évidemment une question un peu difficile. La réponse est un peu difficile, il est toujours difficile de parler de soi-même. Je suis très touché que vous la qualifiez de la plus belle histoire d'amour et qu'elle vous intéresse et qu'elle vous passionne, me fait aussi grand plaisir. C'est une histoire d'amour très, très sympathique et très, très belle, comme vous l'avez dit, parce que c'est une histoire vraie. Et ce n'est pas du tout une histoire fruit de publicité ou de ou artificielle. Quant à vous dire exactement comment nous nous sommes rencontrés pour la première fois, est-ce que même les amoureux les plus simples et les plus dans la vie que nous le savent, je ne sais pas.
Et quand Miss Kelly doit-elle arriver en France ?
Elle arrivera, je pense, le 12 avril.
Elle a déjà visité son château, elle a déjà visité ses appartements.
Oui, mais presque en touriste. Elle n'a pas visité ses appartements, elle a fait le tour du palais l'année dernière, mais en visitant les grands appartements et les choses qu'on montre généralement aux visiteurs.
Est-ce que vous partirez en voyage de noces et où ?
Oui, certainement, un voyage de noces sur mon yacht, si le temps le permet. Je ne sais pas si la Méditerranée sera clémente à cette époque-là, mais je compte faire un voyage de noces d'au moins un mois en Méditerranée.
Monseigneur, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps et je vous remercie infiniment au nom d'Europe numéro 1 de bien avoir voulu nous recevoir. Merci beaucoup.
C'est pas mal, non ? Hein, François, c'est l'Europe 1.
J'aurais aimé faire l'interview.
Hein, oui. Alors, ils se sont rencontrés où, vous disiez, tous les deux
À l'époque du Festival de Cannes.
Oui, c'était sur le tournage de La main au collet de Hitchcock.
Voilà. Elle était à la fois au festival et au tournage. Film. Elle a voulu visiter, comme le prince Rainier le disait, là, elle a voulu visiter Monte Carlo, Monaco. Quoi.
Ah bah ça, elle l'a visité pour le
coup. Après, elle l'a visité.
mais le bouquet de mariage, c'était quoi ?
Ah ça devait être une idée du genre Belmar ou quelque chose comme ça.
Vous êtes formidable.
C'est les coups d'Europe 1 comme ça, hein, de dire, je me souviens des collectes, des choses comme ça, quand il y avait des hivers très froids, du style Abbé Pierre et tout ça. Bon, ça c'est des coups d'Europe 1. On mettait toute la France en route, comme ça les gens devaient téléphoner ou se précipiter dans les rues, tout ça. Et là, c'était un coup, tous les enfants de France devaient donner des fleurs pour faire le bouquet. Alors je sais pas exactement matériellement comment ça s'est.
Ils ont été battus par Onassis, hein, avec son hydravion qui a survolé le yacht princier et qui a fait déverser des milliers et des milliers d'œillets rouges sur le yacht au moment du voyage en départ des Noces.
Et c'est ce qu'il faut dire à propos du bouquet, c'est que Europe 1 aussi a inventé la radio interactive. Bon, maintenant c'est classique, comme les gens en plus ont le téléphone, ce qu'ils n'avaient pas beaucoup à l'époque, donc ils téléphonent aux radios, ils donnent leur témoignage, on entend que ça, etc. Mais à l'époque, bon, le téléphone c'est excessivement rare, donc c'était, il faut sortir dans les rues, il faut aller faire des choses matériellement.
Il n'y avait pas le téléphone rouge à l'époque.
C'est d'ailleurs l'interactivité, le thème de la première émission que nous avons faite dans le cadre des Enfants d'Europe 1 avec
c'est vrai,
Pierre
Belmar. Je l'ai entendu.
Avec Pierre Belmar. Événement heureux ou pas heureux, mais toujours avec le recul, le témoignage d'une époque et de celles et de ceux qui l'ont accompagné, comme lors des obsèques de Miss Tinguette, on est en 56.
Je reconnais Maurice Escande, Suzy Dolaire, Francis Poulenc, Tino Rossi, Georges Guettari, Fernandel, Jeanne Fusiégir, Elvire Popesco, Simone Volterra, Parisis, Simone Berriot, Arletty, Lamont Moineau. Je ne peux pas mettre un nom sur tous les visages, je ne vois qu'une toute petite partie de l'assistance. Autour du catafalque, des fleurs, les fleurs offertes par la famille. On n'avait fait qu'une exception pour la couronne envoyée par Maurice Chevalier, une immense couronne de lilas blanc où on voit cette inscription « À toi, Miss, éternellement, Maurice ». la foule des vedettes et la foule des inconnus, sort lentement de l'église. Je la suis, mais comme je n'arriverai jamais à parvenir sur les marches où a fait prononcer les derniers discours d'adieu, je crois qu'il vaut mieux que je passe la parole à mon ami Molteni qui, lui, se trouve à l'extérieur de l'église.
Malgré le froid, des milliers de Parisiens se sont groupés aux alentours de la Madeleine. Le public de Miss Tinguette est là. Là-bas, derrière de petites barrières blanches de l'autre côté de la place, ou plus près, devant les grilles. Ce public qu'il adorait et à qui elle avait su donner le meilleur d'elle-même. Les toits des maisons tout autour sont encore recouverts de neige. Entre les colonnes, derrière moi, la porte de l'église drapée de noir est surmontée de la lettre M. La famille a pris place sur les marches près du cercueil, recouvert de roses rouges et d'orchidées. Et dans l'assistance, je remarque plus d'un visage connu.
Fernandel, je m'excuse. Je voudrais vous demander quand vous aviez connu Miss.
Mais c'est-à-dire que j'ai joué avec elle en 1934 aux Folies Bergères. Où elle était la vedette, j'avais déjà commencé à faire du cinéma, j'avais tourné quelques films à succès, mais j'ai eu la joie et le privilège de pouvoir connaître cette grande artiste sur la scène et de jouer à ses côtés. Et je suis venu aujourd'hui lui rendre un hommage qu'elle méritait.
Merci, Fernand.
J'en prie.
Tino Rossi assistait également aux obsèques de Miss Tinguette et je voudrais lui demander de nous rappeler quand il avait fait sa connaissance.
Oh, je connais Miss depuis mes débuts et on était très amis. Je perds aujourd'hui une grande amie qui m'aimait beaucoup et que j'aimais beaucoup. Et que ma mère adorait. Pour moi, c'est énorme.
Merci.
Jacques et François, en écoutant ce document, vous étiez en train de vous remémorer certains souvenirs dans des conditions qui sont en l'occurrence celles des obsèques, c'est-à-dire des conditions assez tristes, mais celles de Georges Pompidou, vous y étiez ensemble tous les deux.
Tous les deux, oui, pour Europe, bien sûr. Et alors François, qui craint rien. Bon, les radios étaient dans les hauteurs de Notre-Dame, vous voyez. Il y avait donc des travées dans les hauteurs. Et il a été passé, lui, François Ponchelet, au-dessus de la balustrade. Là, il avait donc un pied dehors, mais au-dessus de la nef. Alors, le pied était au-dessus de la nef et un pied dedans. Et je le tenais par la veste parce qu'il était... Et je craignais que la veste se déchire parce que quand même, il n'était pas léger. Hein. Bon, et voilà, que se passe-t-il? On voit arriver tout d'un coup, là-haut, trois ou quatre agents de sécurité, c'est les agents de sécurité de Nixon, parce qu'il était juste au-dessus de Nixon, et ces gens craignaient le président, qu'il tombe sur le président américain et qu'il le tue du même coup. Ils s'en fichaient de François Ponchelet, évidemment.
Ouais, je ne le connaissais pas non plus.
Mais le problème, c'est qu'ils l'ont fait rentrer du bon côté, si j'ose dire,
alors,
là où il y avait de l'équilibre. Et tout ça, on était en direct, remarqué, hein, pendant ce temps-là, on parlait.
Il y en a un autre qui m'a sauvé la vie, c'est Jean Gorigny, qui a été... directeur d'Europe 1, à propos de Georges Pompidou, c'est là on parle, c'était, tu parlais Jacques des obsèques, et moi je parlais de la messe à Saint-Louis-en-Lille, la messe d'enterrement, et j'ai fait là le lapsus de ma carrière dont j'ai le plus honte, j'en ai fait plusieurs, mais celui-là a vraiment failli me coûter très cher. C'est-à-dire que j'ai fait un lapsus horrible, au lieu de dire que le cercueil du président Pompidou était transporté dans un fourgon mortuaire, j'ai dit le fourgon cellulaire. Et ça a été... Et je m'en suis pas rendu compte parce qu'il y avait un bruit épouvantable autour, il y avait les cloches qui sonnaient, il y avait des photographes partout, j'étais entre les jambes des photographes, et un fourgon cellulaire, et un fourgon mortuaire. Terrible. Ça n'avance pas vite. Et donc, je l'ai répété à plusieurs reprises. Et il y avait Gilles Schneider qui était à ta place, Marc, ouais. Qui était leader de l'émission du direct en studio. Et il n'a pas dû m'entendre. En tout cas, il ne m'a pas repris. Et moi, je me suis répété. Et ça a été ma honte. Et à cette époque-là, l'Europe 1 dépendait de la Sofirad.
Société financière de radiodiffusion.
Voilà, ouais. Dont le PDG était un certain Denis Baudouin. Et Denis Baudouin a appelé Maurice Siegel et Jean Gorigny pour leur dire « Virez-moi immédiatement ce type, là, François Ponchelet, c'est scandaleux ce qu'il vient de faire, etc. » Et là où je dis qu'après Jacques, Jean Gorigny et Maurice Siegel m'ont sauvé la vie, c'est qu'ils ont dit « Non, c'est une erreur, c'est un lapsus, il n'est pas question de virer ce journaliste. »
Il faut préciser peut-être qu'il y avait deux cérémonies, et il y avait donc cette cérémonie plus dans l'intimité, dans l'île Saint-Louis, puis alors à Notre-Dame, c'était les grandes obsèques avec tout le gratin des chefs d'État du monde entier. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup amusé parce que le cardinal Marty, qui célébrait la messe, là, avait commencé par réciter le Magnificat. Et le Magnificat, c'est un texte qui dit « Il a chassé les puissants de leur trône, il a envoyé les riches les mains vides ». Alors, je me disais, mais les puissants, ils sont tous là. C'était assez étonnant.
Cérémonie particulière. On se retrouve après les informations.
Les enfants d'Europe 1, on retrouve Marc Tronchon.
Retour dans le studio des enfants d'Europe 1 pour une émission un petit peu spécial consacré à l'information, à l'histoire de l'information. Et Dieu sait si Europe 1 y a participé à cette histoire. Pour nous accompagner, François Ponchelet, ancien grand reporter de cette maison, Jacques Duquesne, qu'on ne présente plus. On parlait tout à l'heure avec toi, François, de l'importance effectivement du son, importance dont Europe 1 avait pris vraiment conscience. On a fini par s'habituer aujourd'hui au défilé des images dans les grandes éditions télévisées. On oublie parfois les risques pris pour un document, un témoignage par les journalistes pour être au plus près de l'événement. Par exemple, un son, un simple son qui peut être symbole, symbolique d'un événement, le bruit des chars soviétiques à Budapest en 56, par exemple.
Eh bien, là, il semble que la bagarre a commencé à...
Ils avancent vers nous en ce moment, tourelle braquée vers le l'hôtel d'Una. Ils viennent tirer une rafale de mitrailleuse.
On essaye de voir en se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux.
Un deuxième char le suit de près.
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Oui, oui, je viens. Il tire à la mitrailleuse, vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Écoutez, change. Vous entendez les balles claquer sur le mur.
Un troisième char arrive.
Un troisième char arrive, je ne sais pas si vous avez entendu. C'est mon ami Delcou qui m'a entendu ça. Les gens dans l'hôtel sortent doucement. Quatrième char et ils tirent. En quelle direction? Ben, pas sur nous alors. Ils viennent tourner sa tourelle, c'est vers nous. Il vaut mieux se baisser, oui je crois. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà.
À ceux qui penseraient que ce métier est de tourpeau, je crois qu'il suffirait presque de ce reportage pour prouver le contraire. François Ponchelet, ça fait revivre certaines choses, certains sentiments, certaines peurs,
oui,
peut-être.
Ben, ça fait revivre le sentiment que, effectivement, bon, la peur existe, hein. Ça fait aussi, ça introduit l'idée que quand on est dans une situation comme celle-là, on sent un peu l'odeur de la poudre et c'est assez excitant. Ça excite et ça fait peur. On a l'impression de vivre un moment exceptionnel, de récolter un scoop, hein. Moi, ça m'est arrivé dans des circonstances un peu comme ça.
On va en reparler tout à l'heure.
Donc, on ne pense pas à ce moment-là à sa famille, on ne pense pas à ses gosses, on pense à rien, on pense à son métier. Et moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, c'était ça. J'étais dedans, il fallait que j'ai le document, il fallait je surveillais le niveau de mon agra pour que le son ne soit pas saturé. J'essayais d'écrire en même temps ce qui se passait, exactement comme ce qu'on vient d'entendre. Et là, je crois que c'est à l'école Europe 1, en écoutant Europe 1 depuis très 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 jeune, parce que moi, je crois que j'avais qu'une idée, c'était d'entrer à Europe 1, après avoir été dans une maison concurrente, où je faisais que des faits divers, des trucs comme ça. Et puis Europe 1, ça me faisait rêver, et puis j'ai fini par y entrer un jour. Et puis c'est après avoir écouté tous ces anciens que, ben, ma foi, Jacques, ça a fini par arriver.
Il Jacques. Faut dire qu'à l'époque où ça s'est passé, la Hongrie, là en 56, Europe 1 était sur trois fronts en même temps, parce qu'il y avait en même temps la guerre d'Algérie, l'expédition de Suez en même temps que la Hongrie, où la France et l'Angleterre ont débarqué en Égypte. C'était la division du général Massu. Et donc, vraiment, il fallait être sur trois fronts en même temps, avec des reporters partout. Alors, un effort considérable.
La guerre d'Algérie, effectivement, qui fournira à la radio en général, et à Europe 1 en particulier, quelques grandes heures d'antenne. Par exemple, l'arrivée de Guy Mollet à Alger, sous les pierres.
Maintenant sur le point d'arriver. Vraiment, l'atmosphère d'Alger est oppressante. Les gens sont massés, vous les voyez manifester. Les figures sont tendues, encadrées. Les gens sont encadrés par des troupes en casque. Voici maintenant la Delahaye et des présidents du Conseil. Monsieur Guy Mollet descend. Il est pâle. Il est précédé d'une centaine de journalistes environ. Ils sont tous assez mal à l'aise, si j'en juge par leur physionomie. On jette des pierres sur le président du Conseil, des pierres volent, et le président du Conseil reste impassible. Une pierre vient d'ailleurs de m'atteindre au genou. Les CRS se détachent et vont certainement charger la foule. Ça y est.
La foule, les CRS chargent la foule, tandis que le président du conseil reste impassible.
Jacques Duquesne, le moment est d'importance, c'est celui où Guy Mollet va peut-être prendre conscience, véritablement, le socialiste Guy Mollet va prendre conscience de ce qui se passe en Algérie. Et peut-être là, France politique, les hommes politiques, les responsables politiques vont-ils aussi prendre conscience.
Oui, alors c'est là que la radio, l'information, mais la radio spécifiquement à l'époque, et Europe 1 notamment, il faut le dire, et surtout Europe 1, ont joué un rôle, si vous voulez, qui a vraiment dans la vie politique. Parce que qu'est-ce qui se passait pendant qu'on entendait notre ami là qui faisait le reportage? Eh bien, à Paris, Pierre Malestrance, par exemple, qui était dans le gouvernement de Guy Mollet, mais qui va le quitter quelques mois après parce qu'il est en désaccord avec la politique algérienne de Guy Mollet et avec le retournement que ce jour-là aura provoqué chez Guy Mollet, comme vous venez de le dire. Eh bien, Pierre Malestrance écoutait Europe 1, tout le gouvernement écoutait Europe 1 pour savoir exactement ce qui se passait à Alger. Mais à l'heure même, instantanément, c'est là qu'on voit que l'information joue un rôle politique décisif, mais pas pour le lendemain, à la minute et à la seconde près.
Et alors, en 61, quelques temps après, ce sera le putsch des généraux. Le reporter d'Europe 1 témoigne, là encore.
Depuis 5h35, très exactement, toutes les communications téléphoniques et télégraphiques avec la métropole sont interrompues. Quand on interroge les services des PTT, ils disent « le câble est coupé ». Depuis ce matin aussi, à 6h30, la radio n'émet plus. À 6h30, il y avait une émission prévue au poste de France 5. Cette émission n'a pas été diffusée et, contrairement à ce qu'il se passe d'habitude chaque matin, il n'y a pas eu sur les émetteurs de France 5 non plus, ni en langue arabe, ni en langue française, de musique comme d'habitude. Mais, par contre, sur la même longueur d'onde, d'une voix entrecoupée par des interruptions techniques, on pouvait entendre une voix qui disait « cette nuit, l'armée s'est rendue maître du pouvoir en Algérie, les généraux Jouot, Zeller, Charles sont arrivés, ils ont pris le contrôle des territoires algéro-sahariens, l'opération s'est déroulée normalement, gendarmes et CRS se sont ralliés aux forces de l'ordre et les autorités civiles et militaires ont été arrêtées sans opposition. Puis, on a entendu le général Charles vous parle. Il m'a pourtant semblé que ce n'était pas la voix de l'ancien général commandant-en-chef en Algérie. Cette voix était sourde, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi sourde que celle du speaker. Il semble donc que l'on n'utilise pas les émetteurs de France 5, les émetteurs de la RTF en Algérie. Voilà donc pour le moment, puis à 7h environ, à 7h, des éléments militaires sont arrivés au siège des agences de presse, au siège aussi de notre bureau, puisque notre bureau à Alger est situé à celui de l'Unité Presse. Pour l'instant, j'ai des parachutistes dans mon bureau, ils sont là, ils me gardent, je ne peux rien faire, je ne peux rien envoyer sur Paris, comme je vous l'ai dit, d'une part par la ligne, sauf puisque vous venez de m'appeler au téléphone, mais autrement, toutes les communications sont coupées avec la métropole.
Et puis en 62, alors que les négociations des futurs accords d'Évian ont commencé, une tragédie qui va faire une centaine de morts, tragédie du plateau des Glières, connue également sous le nom de fusillade de la rue d'Isly, des Français contre des Français. Un document sonore enregistré sur place par le reporter d'Europe 1, René Duval, va faire le tour de France et marquer l'histoire de la radio. Un lieutenant en larmes qui crie désespérément halte au feu alors que le pavé d'Alger est déjà jonché de dizaines de cadavres.
Bon lieutenant, de l'énergie, mon vieux.
Halte au feu !
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 Halte au feu ! Mon lieutenant, criez, je vous en supplie.
Halte au feu !
Halte au feu !
Voilà, un document d'anthologie dans l'histoire de la radio et dans l'histoire d'Europe 1. On se retrouve pour l'évoquer dans quelques instants.
Marc Tronchot et ses invités Jacques Duquesne et François Ponchelet.
Retour avec les enfants de la radio pour revenir sur ce document qu'on vous faisait écouter, réécouter pour certains d'entre vous. Et il y a quelques instants, ce halte au feu de ce lieutenant, c'est Rudy Sly, à Alger.
C'est une époque terrible, c'était au moment de la négociation des accords d'Évian.
Ça venait de commencer, oui.
Et les gens de Bab El Oued, qui était un quartier populaire d'Alger, s'étaient révoltés contre les accords qui venaient d'être signés à Évian. Et ils étaient cernés pratiquement, il y avait le siège par l'armée de Bab El Oued. Et alors ce qui s'est passé à cette époque, c'est que les autres pieds noirs d'Alger ont été appelés à manifester leur soutien et à marcher vers Bab El Oued, et ils empruntaient donc la rue d'Isly, dont on vient de parler, notamment. Et là, il y avait une unité, et il y a toujours eu un débat historique sur la question, parce que c'était une unité de tirailleurs, avec un lieutenant français qu'on vient d'entendre crier, là. C'est une unité de tirailleurs. Alors, c'était pas l'idée la plus lumineuse, peut-être, d'avoir mis une unité de tirailleurs là.
À cet endroit-là.
À cet endroit-là, au moment où il se heurtait à la foule. Et bon, il y a eu ce qu'on a vu, là, ce qu'on a entendu, ce massacre, cette chose terrible. C'était pas la première fois qu'il se passait des choses terribles en Algérie, mais c'était quand même, ça reste dans la mémoire très fort, comme vous disiez, des Français contre des Français, parce que finalement, c'était quand même l'armée française contre des Français. Mais aussi, il faut bien dire aussi que les gens de l'OS avaient tué auparavant des soldats français près de Bab El Oued.
Et ça, c'est un son vraiment historique, hein, François.
Oui, c'est un son historique qui a une petite histoire, lui aussi, parce que tous les sons ont une petite histoire. Et là, la séquence a été enregistrée. René Duval est allé se mettre à l'abri quand la fusillade a éclaté et il a perdu son agra, qui est resté au milieu de la rue avec le micro ouvert. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, après la fusillade, il est allé récupérer son agra. Et là, il avait tout enregistré. C'est pour ça que le son est aussi présent. Parce que s'il avait été planqué ou sur un balcon, il n'aurait jamais eu la présence et la qualité de ce son qui en fait un document exceptionnel.
Mmh. Et dans le document précédent, il y avait aussi un détail qui était qui marque. C'est tout de même ce journaliste qui fait son papier au téléphone, alors même qu'il est entouré par des parachutistes.
Oui, et il fait son papier comme il l'a dit parce que c'est Europe Paris qui l'a appelé, parce que lui pouvait pas prendre l'initiative d'Alger d'appeler Paris.
Alors Marc, encore une toute petite précision quand même. Cette fusillade de la rue d'Isly, ça a été le détonateur, oui. Du départ, enfin le déclencheur du départ des pieds noirs à partir de je crois avril 62, et c'est la fusillade de la rue d'Isly qui a ouvert le flot qui n'a pas cessé depuis du départ des Français d'Algérie.
Alors le document radiophonique tient parfois un détail qui peut lui donner une légitimité, une dimension autre, une proximité plus grande, celle que donne le direct, comme le jour de l'attentat contre le président Kennedy en novembre 63 à Dallas. Le journaliste de la station, Fred Goldstein, est aux côtés de l'ambassadeur de France à ce moment-là.
Put me on, Phil, put me on.
Passez-moi l'antenne, c'est fait. Nous sommes près de la chambre de commerce. Le cortège arrive, je vois de très nombreuses motos, des motos de police. Il y a eu un appel sur les radios de police pour demander à toutes les unités du quartier de rejoindre le défilé. Il s'est passé quelque chose. Il semble qu'il y ait eu une fusillade. La voiture du président arrive vers nous, je la reconnais. Je vois Mme Kennedy assise, toute droite. Il y a un agent des services secrets allongé sur la voiture. Il semble que le gouverneur et Mme Connally sont dans la voiture avec le président et Mme Kennedy. On ne peut pas dire qui a été touché, si même quelqu'un a été touché, mais apparemment il se passe quelque chose de grave, de très grave. Je suis derrière le cortège, j'essaie de le suivre sur le chemin de l'hôpital. L'homme des services secrets est toujours sur la voiture avec, semble-t-il, le président et Mme Kennedy. Et aussi le gouverneur et Mme Connally. Au moment où je parle, on ne peut dire si c'est une, deux ou les quatre personnes dans la voiture qui sont victimes des coups de feu.
Il y a quelques instants, nous étions en liaison téléphonique avec l'ambassadeur de France à Washington, Monsieur Hervé Alphan, et Fred Goldstein lui demandait précisément des nouvelles du président Kennedy. Écoutez.
Le cas du président n'est pas encore certain. Et on dit qu'il est dans une situation fort critique. Attendez deux secondes, il faut que j'écoute la radio.
Oui.
Je crois qu'on annonce en ce moment même qu'il est mort.
Un instant, une information nous arrive. Nous allons vous mettre en ligne avec l'hôpital Parkland et le directeur de la réaction de KBEX, Bill Hampton.
The president of the United States.
Le président des États-Unis est mort. Je viens de parler au père Oscar Hubert de l'église de la Sainte Trinité. Lui et un autre prêtre me disent qu'ils viennent de donner l'extrême onction suivant les rites catholiques au président Kennedy. J'ai demandé au père, est-ce que M. Kennedy est mort? Et sa réponse a été, il est bien mort.
Là, on est carrément dans l'histoire. C'est émouvant de réentendre ça.
C'était un dimanche en fin d'après-midi pour nous en France. Et je dois dire qu'on était... Bon, vous voyez, un dimanche après-midi... Moi, j'étais un auditeur là, à ce moment-là. Bon, et donc, tout d'un coup, on a entendu cela. Les émissions se sont interrompues. Et on a entendu ce qu'on vient d'entendre. Et on était pendus à la radio. Enfin, vraiment, c'est... Un élément nouveau était arrivé, c'était les transistors. Hein. Par rapport à la naissance d'Europe 1, au début, c'était des gros postes, comme ça, en bois et tout ça. Et là, il y avait des transistors. Alors les gens se promenaient dans leurs appartements avec ces transistors pour écouter ça pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations. Et puis ils se sont arrêtés quand ils ont entendu cet événement considérable qui était l'assassinat de Kennedy.
Et c'est vrai que déjà à cette époque-là, l'Europe était capable de, j'allais dire, de tout casser sur son antenne pour faire place à l'information.
Ce sont vraiment des éléments qui marquent une vie. Moi, je me souviendrai toujours de ce que je faisais ce jour-là, à cette heure-là. Il se trouve que j'étais au centre de formation des journalistes et c'était le jour où on faisait un journal école. Et on avait préparé le journal, bon... Et puis là, sacré le son d'improvisation, tout cassé, c'est notre métier permanent. Hein. On a refait complètement le journal, Kennedy assassiné, etc. Et ce journal école, moi, pour moi, ça restera vraiment un sujet d'école. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus.
L'histoire toujours, quelques années plus tard, changement de latitude. Julien Besançon couvre la fin de ce qu'on appellera la guerre des six jours.
Le Rav Alouf Isaac Rabin. Le général en chef de l'armée israélienne, Rabin, parle encore à quelques mètres de l'endroit où je suis en ce moment. Il vient de dire, il y a moins d'une minute, « Je voudrais bien vous dire que tout est fini, mais cela ne dépend pas de nous. Je crois que nous sommes victorieux. » Avant, pendant une demi-heure, il avait tracé un bilan de ce que fut cette guerre, on peut peut-être parler déjà au passé, et de ce que furent les victoires israéliennes. Sharm el-Sheikh est tombé. Le détroit de Tiran, le golfe d'Aqaba, est libre à la circulation. La plupart des troupes égyptiennes sont en déroute dans le Sinaï. Jérusalem, la vieille ville, est entièrement dans les mains des troupes israéliennes. J'en reviens pour la seconde fois en 24 heures. Bethléem, Jéricho, Latroun, Jenin, Nablouz, toute cette partie de la Jordanie jusqu'aux rives du Jourdain, y compris les rives du Jourdain, sont dans les mains des Israéliens. Je reviens encore une fois de Jérusalem. Les scènes de joie que l'on voit dans la ville israélienne sont indescriptibles. C'est du délire, les gens dansent maintenant. C'est du délire.
Mohammed, 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 Mohammed.
Vous avez entendu les cris de Vive Dayan, la bonne affaire. Et Mohamed payait sur le ton de la dérision. Il y a encore un peu de canonnade dans le fond, mais c'est beaucoup mieux qu'hier. Déjà, Tel Aviv pavoise. Déjà, c'est la fête de la victoire en Israël. Le cessez-le-feu avec la Jordanie est intervenu cette nuit, à 10 heures officiellement. Mais dans le Sinaï, on ne peut encore dire que la guerre soit arrêtée. Il y a encore des combats de ci, de là, sans qu'on sache où exactement.
Jacques, dès qu'il y avait une possibilité de couvrir un reportage à l'étranger, on le faisait sans aucune hésitation.
Ah, toujours. Et de la guerre des six jours, bon, là, bien sûr, on va pas exagérer, mais c'est vrai qu'Europe 1 a marqué un point considérable parce que. Il annonçait une demi-heure à l'avance, en général, les prises des villes, Besançon. Peut-être avec un peu d'optimisme, mais chaque fois, il annonçait les prises des villes par l'armée israélienne avec toujours un peu d'avance. Et en même temps, Europe 1 n'était pas dupe, parce que je me souviens d'une intervention de Jean Gorini, qui expliquait, parce que vous savez que la guerre des six jours avait démarré théoriquement comme une guerre défensive de la part d'Israël qui se disait attaquée par l'Égypte. Mmh. Et je me souviens d'une intervention de Gorini, Jean Gorini, expliquant au micro d'Europe 1 très paisiblement que c'était un leurre qui avait... Je me souviens du mot leurre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on avait un peu triché et il expliquait que c'était un leurre. D'ailleurs, pas tous les auditeurs savaient pas obligatoirement que c'était qu'un leurre, qu'on avait combiné une fausse attaque aérienne de l'Égypte pour... effectivement que...
Le recul du journaliste.
Voilà.
Mmh. Et Besançon avait compris, avait une méthode de travail, il écoutait beaucoup la radio militaire israélienne. Et donc, ça lui permettait d'être toujours informé de l'endroit où les choses allaient se passer, où elles venaient de se passer, et d'aller au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est un truc de reporter, hein. Depuis, ça a fait école. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui avaient compris comment ça fonctionnait. Et sur une radio concurrente, par exemple, où je travaillais à l'époque, il y avait un malheureux reporter, dont je ne citerai pas le nom, qui, lui, était sans arrêt en train de courir, mais il ne savait pas où aller. Il arrivait toujours en retard sur l'événement, alors que Besançon, lui, boum, il était au bon endroit, au bon moment.
C'était Lily Allen. Et on retrouve Marc Tronchot et ses invités Jacques Duquesne et François Ponchelet.
Retour au Club des Enfants d'Europe 1 pour une session spéciale d'information. Mai 68, ce sera, bien sûr, pour les médias, on n'emploie pas encore ce mot comme aujourd'hui, mais une période particulière, et particulièrement pour Europe 1. Europe qui avait anticipé, 2 mois auparavant, on avait eu droit sur l'antenne à ce reportage de Patrice Louis, qui, d'une certaine manière, est l'acte fondateur du mouvement de 68, c'est l'occupation de Nanterre.
C'est aberrant d'aller dans le département de sociaux, étant donné que le bâtiment administratif est le centre de Nanterre et que c'est en étant dans le bâtiment administratif que nous voulons démontrer notre volonté de lutter contre la répression. Ça, c'est un point précis. Deuxièmement, je ne comprends pas quelle est la différence, à part tout ça, si c'est quelque chose de luxe, d'aller au premier étage, au deuxième étage ou de rester ici en bas. Non, c'est pas ça. Laissez-moi. C'est pas... Le problème n'est évidemment pas de dire... de rester ici ou de ne pas aller, de ne pas s'asseoir dans les escaliers ou tout ça. Si je propose ici en bas, c'est pour la simple raison que notre geste, ça tout le monde est d'accord, est un geste qui se veut et qui ne peut être, vu la force qu'on a en ce moment, que symbolique. Le geste symbolique de l'occupation ici en bas nous protège d'un autre côté contre une répression qui peut être purement idiote,
mais qui est une répression judiciaire. Alors là, je dis que si l'on qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, et je ne parle pas pour moi, parce que ce n'est pas tellement le problème, il y a des gens ici qu'on connaît, et c'est, je ne parle pas de moi, il n'y en a plus, et il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Et je suis sûr que s'il y a une répression judiciaire, ça pourra effectivement redévelopper et montrer la répression. Mais les gens qui seront victimes de cette répression judiciaire parce qu'ils sont rentrés par effraction en haut au lieu d'être restés en bas, et c'est exactement le même geste symbolique, n'auront rien de plus.
Je suis tout à fait d'accord pour discuter de tous ces problèmes-là ensemble. Seulement, c'est pas ici, debout, qu'on va le faire. Ou alors, dans 10 minutes, il y a la moitié des mecs qui sont barrés. Maintenant, le problème de l'occupation toute la nuit, ça avait précisément aussi cet objectif de permettre de discuter d'une manière ininterrompue de tous ces problèmes. Deuxièmement, je suis pas d'accord avec toi, Dani, comme tu dis, c'est simplement une action symbolique. C'est pas simplement une action symbolique parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire d'autres choses spectaculaires, faire des communiqués dans la presse, faire appel à la Ligue des droits de l'homme, il y aurait beaucoup de trucs. C'est aussi une modification dans une certaine mesure du rapport de force. Dans la mesure où on a été capable, à partir du moment où le matin, 4 militants ont été arrêtés, de réunir ici 150 personnes pour occuper, pour faire une action qui sort un peu de l'ordinaire. Et ça, habituer l'administration d'une part, la police d'autre part, à la réaction immédiate, c'est important. Et c'est pas seulement un problème symbolique.
Et des affrontements suivront quelques semaines plus tard, offrant à la station quelques moments restés dans les mémoires et qui marqueront leur époque. Le direct est roi. Au micro, Schneider et Choisel.
C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent tandis que autour de moi les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire. Je vois là-bas des CRS qui sont parvenus au contact. Et il y a des coups très très sévères qui sont échangés. Et une nouvelle fois, les voitures font les frais de l'opération, car les voitures ont été mises au travers de la roue. Attention, les voilà.
Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Reculez ! Les étudiants chargent ! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS se font, ont formé une espèce de trois avec leurs boucliers.
Et ce sont maintenant les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger avec des voitures, lançant de l'eau, des lances de pompiers, et les manifestants ne reculent pas.
Gilles Schneider, Fernand Choisel, c'est une période, Jacques, François, où les radios, RTL et Europe 1, sont accusés de faire clairement le jeu des manifestants par les responsables politiques de l'époque.
Oui, qui ont fait couper les fréquences HF. Parce qu'il fallait pas donner trop d'informations, il fallait surtout pas dire où étaient les forces de police, etc.
Donc
les reporters, eux, étaient sur le
ils
terrain.
Ils annonçaient que les émeutiers arrivaient d'un côté ou que la police arrivait de l'autre. Alors le pouvoir, évidemment, n'a pas supporté.
Et donc les journalistes, ils se débrouillent toujours pour tourner ce type de difficulté. Donc à partir du moment où les fréquences des voitures, des cars de reportage ont été coupés, et ben les journalistes ont commencé à monter dans les immeubles pour trouver des téléphones pour pouvoir continuer à informer.
C'est ça. Et donc, les auditeurs qui les recevaient dans leurs appartements.
Ils étaient reçus chez l'habitant.
Ils étaient reçus royalement. Il n'y avait jamais de problème. Ils se mettaient à la fenêtre, ils tiraient sur le fil du téléphone et ils continuaient à faire leur boulot sur le téléphone au lieu de le faire sur des fréquences radio. Et ça a été un très bel exemple de la façon dont les journalistes arrivent toujours à se tirer de situations compliquées.
Jacques, quel type de rapport entre Europe 1 et la politique, les responsables politiques
Les responsables politiques avaient très vite compris l'importance quand même d'Europe 1, et donc ils venaient volontiers s'exprimer à la station quand ils étaient invités au journal de Jacques Paoli, par exemple, qui était à midi et demi, où il y avait le bar Martini, d'ailleurs, il y avait un bar là.
Et donc, le fameux débat Madès-France Debré aussi.
Oui, et alors c'était en public, et alors il y avait des gens qui venaient là parce qu'il y avait des canapés, de l'alcool, etc. C'était plutôt agréable, je dois dire. Bon, c'était sympathique comme ambiance. Bon, et les responsables politiques venaient là. Il y avait des débats comme celui que vous venez de dire, Madès-France Debré. Il y avait des interviews. Il y avait des gens d'Europe 1, comme Georges Atchouer, qui étaient à l'Assemblée nationale en permanence, et qui étaient des commentateurs très, très écoutés, très, très importants. Et puis, bon, il y avait la chaleur de l'événement. Il y a eu les soirs d'élection. C'est quand même dans cette station qu'on a commencé à donner les résultats à 20h, les résultats des élections, n'est-ce pas? Et c'est quand même, ça c'était nouveau, parce que moi je me souviens de 10 ans auparavant où on donnait les résultats petit à petit de telle commune du Loir-et-Cher, ou etc. Tandis que là, ça a été nouveau, et ça a été une innovation, un changement dans la vie de tous.
Alors 68, c'est aussi l'année du printemps de Prague, avec la réponse que l'on sait quelques semaines plus tard. Les chars du pacte de Varsovie rentrent en août dans la capitale tchèque.
Les manifestations commencent. Ils sifflent les chars russes. Ils prennent position sur la place Venceslas. Ils se cachent dans les magasins. Il y a 50 mètres de moi, j'ai des soldats russes qui apparaissent, qui mitraillettent au coin. Les autres pompiers arrivent. Il va y avoir quelque chose qui brûle. Je ne peux pas y aller car les Russes sont à 20 mètres de moi maintenant. Bon, ça sort, attention. Tout le monde court. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, madame?
Oui, vous voyez, on a donné par la radio municipale un programme en faveur des occupants et des Russes. C'est pourquoi les gens ont sifflé, les autos ont, comment ça se dit, ont fait
le klaxon.
Klaxon, oui.
C'est pour ça qu'il y a eu la manifestation.
Il n'y a pas de manifestation, à mon avis, mais c'est pour ça que les Russes ont tiré contre les gens.
Ça y est, les émissions recommencent. Et aussitôt les cyclers reprennent, tandis que les soldats soviétiques prennent position. Je suis obligé de cacher mon magnétophone sous un imperméable, c'est peut-être pour ça que le son n'est pas excellent. Je ne peux pas faire autrement.
Année terrible, année qui est également celle de l'offensive nord-vietnamienne, dite offensive du Tet. L'année où le président américain Lyndon Johnson, qui fait déjà bombarder depuis plusieurs années le Vietnam du Nord, envoie à Saigon le premier corps expéditionnaire. Richard Nixon, élu en 69, tentera avec Henry Kissinger de sortir l'Amérique de ce conflit. Saigon tombera en avril 75. François Ponchelet, vous y étiez.
Tout près du palais présidentiel et qu'actuellement, des engins blindés sont en train de se mettre en position devant le palais. Je pense que ce ne sont pas des assaillants. Ils ont le canon braqué directement sur le perron du palais, mais ce ne doit pas être des assaillants. Je pense au contraire qu'il s'agit de chars qui viennent protéger le palais présidentiel. Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Le drapeau Viet Cong, rouge et bleu, l'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Mine. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils ont les canons braqués. Ils défoncent la grille du palais. J'essaie de m'enfuir le plus vite possible. Il y a, à mon avis, trois chars qui sont en train de prendre position et de tirer sur le palais présidentiel. Maintenant, complètement cerné par les forces Viet Cong. Ils tirent à la mitrailleuse sur le palais. Un troisième char rentre. Les soldats du Viet Cong arrivent dans des jeeps.
Ah, oui.
Ils saluent la population. Vous êtes content qu'ils soient arrivés?
Oui.
Les chars sont amicaux. Ils saluent la population. Incroyable, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, moi, je pense comme vous.
C'est fini la guerre, alors?
C'est fini. Parfaitement.
On pense à quoi, François, dans ce genre de moment? Et on pense à quoi? On ressent quoi quand on se réentend?
Ben, on pense à quoi sur le coup? On pense surtout à essayer de sauver sa peau, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe.
On n'a pas l'impression que tu y penses quand on écoute. Je veux dire, t'es là en train de demander aux gens ce qu'ils pensent, en train d'attendre
après coup,
que
mais les... la première chose, bon, moi je vois les chars arriver, je comprends pas trop ce qui se passe. On s'attend à un coup d'état militaire pour empêcher la reddition. Et puis tout d'un coup, je vois ce char avec le drapeau
Vietcong.
Et puis donc là, je suis au milieu de la pelouse comme un con. Il n'y a pas d'autre solution, il y a pas d'autre mot pour le dire. Et donc je me mets à courir vers les casemates ou de l'entrée du palais. Et puis bon, j'ai escaladé la grille là ce jour-là pour essayer de me sortir de ce guépier. Puis j'ai compris ensuite ce qui se passait, que ça allait se terminer très vite. Donc je suis revenu ensuite. Et donc ça, c'est pour à quoi on pense, effectivement. Et la deuxième question, c'était quoi? J'ai oublié.
Bah, quand on réentend ça aujourd'hui...
Bah, moi, ça me...
Ça refout la trouille?
Non, ça me... Je suis assez content, quoi. Je suis assez content d'avoir fait ce document dans ma vie professionnelle.
On peut l'être, non,
Jacques? Oui, il y a de quoi être fier, c'est vrai, d'être... Mais il y a en même temps un bonheur quand on est dans l'actualité, comme ça, dans la chaleur de l'événement. Moi, j'ai toujours ressenti ça. C'est vraiment... On est heureux d'être là, mais quels que soient les risques. Moi, j'ai beaucoup eu moins de risques que François dans cette opération-là. Mais il y a quand même toujours un bonheur d'être là. Voilà, on fait son travail, on est heureux de faire son travail, puis on est heureux de voir quelque chose qui restera dans l'histoire.
On est complètement tout seul, François.
Ah, là, j'étais vraiment tout seul, oui. Mais alors, l'histoire a une suite et une fin. C'est que ça s'est passé donc le 30 avril 1975, le jour de la chute de Saïgon. Ensuite, après avoir interviewé ce type sur le trottoir, j'arrête un scooter, une Honda, et je lui dis, on fonce à la radio pour passer mon document. À l'époque, c'était les lignes à longue distance. Donc, j'arrive à la radio, et la radio, c'est la première chose qu'on fait quand on prend un pays. On prend la radio.
On s'assure de la radio
et donc,
des aéroports.
Là, il n'y avait que des petits hommes verts, c'est-à-dire des soldats du Nord-Vietnam et Vietcong. Impossible de passer mon document à la radio. Donc, ce document, en fait, il est resté pendant un mois, parce qu'on est resté bloqué à Saïgon pendant un mois, il est resté dans mon agra.
Ah oui, il n'y avait pas les moyens modernes.
Il n'y avait pas les moyens modernes de communication, et donc pendant un mois, j'avais ce truc, et je suis rentré. Pourquoi on ne nous a pas laissé partir? Parce qu'il fallait que ce soit les journalistes des pays amis qu'ils ont fait venir par charter, qui racontent les premiers la chute de Saïgon. Ils leur ont fait une reconstitution de la prise du palais présidentiel. Et nous, les journalistes libres, entre guillemets, on est restés là pendant un mois, et ensuite ils nous ont lâchés.
Pas facile les transmissions, et tu me disais il y a quelques jours, que quand on s'est parlé, que tu avais réalisé aujourd'hui, en retournant sur place, à quel point ça avait pu être difficile à ce moment-là, à quel point c'était peut-être plus facile aujourd'hui.
Oui, effectivement, parce que moi je suis retourné au Vietnam il n'y a pas très longtemps, j'avais mon portable, j'étais sur les hauts plateaux, hein, bon, un endroit totalement désert, j'appelais Paris comme je voulais, hein, par l'international, tac, 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 en 3 secondes j'avais Paris, 3 minutes, 1 minute, j'en sais rien. Bon, et je me suis dit après, mais bon Dieu, si j'avais eu un portable le 30 avril 75 à midi, le jour de la chute de Saïgon, mais je faisais un tabac, quoi, c'était pas... Et bon, mais bon, finalement ça s'est passé comme ça, et c'est très bien comme ça.
Les enfants de la radio, la suite, on sent, François, Jacques, quand un événement est digne du manuel d'histoire.
Ah oui, ça oui, toujours. Enfin, on se trompe parfois, hein, on n'est pas infaillible, bien sûr, mais on a vraiment par moment l'impression d'être au cœur d'un événement considérable qui marquera, qui restera dans... Moi, je me souviens, je sais pas moi, le jour de l'indépendance de l'Algérie, moi j'étais à Alger, bon, on a l'impression là... d'être vraiment au cœur de l'événement, de quelque chose qui les enfants des écoles apprendront plus tard qu'au début juillet, qu'à cette date-là, eh bien, l'Algérie est devenue indépendante. Donc on se dit, là je suis dans un événement, j'ai de la chance. Moi j'ai toujours pensé que j'avais de la chance de faire ce métier.
On sent très souvent qu'on assiste à un événement fondamental pour...
qui marquera l'époque.
Qui marquera l'époque. Et je prends l'exemple du procès Patrick Henry à Troyes, devant les assises de l'Aube. C'est Robert Badinter qui était le défenseur de Patrick Henry. Patrick Henry avait assassiné un petit gamin, le petit Philippe Bertrand, dans des conditions atroces. La cour d'assises de l'Aube avait condamné quelques années plus tôt Buffet et Bontemps à la peine de mort et ils avaient été exécutés. Badinter a fait une plaidoirie tellement extraordinaire avec une telle force de conviction qu'il a sauvé la tête de Patrick Henry. Et ça, ça a été la fin de la peine de mort en France.
Dès ce moment-là, la fin de la peine de mort était programmée.
Exactement, c'était fini. À partir du moment où Patrick Henry sauvait sa tête, et à la limite, plus aucune raison d'exécuter aucun condamné.
Et l'élection Jean-Paul II, tu t'en souviens, François?
Oui. Plutôt, oui.
Plutôt. On y va.
Habemus Papam, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła.
De Rome, notre envoyé spécial, François Poncelet.
Dès la fin de la cérémonie, le pape Jean-Paul II, qui visiblement adore le contact direct avec la foule, le pape Jean-Paul II s'est dirigé vers cette foule massée sur la place Saint-Pierre. Il a dit à la foule, vous êtes l'espérance du monde, l'espérance de l'Église et mon espérance, ce qui a provoqué de vifs applaudissements. Et puis le pape a provoqué alors là un véritable déchaînement d'enthousiasme avant de prononcer la bénédiction. Il a dit en effet, allez, il faut se quitter, nous avons tous faim, il faut aller déjeuner. Et je crois que c'était vraiment le mot de la fin.
Aux catholiques de France et des pays de langue française, j'exprime toute mon affection et tout mon dévouement. Et je me permets de compter sur votre soutien filial et sans réserve.
Alors vous étiez tous les deux, Jacques Duquesne, François Poncelet, vous étiez au même endroit,
oui,
ce jour-là.
Et le problème, c'est que quand on annonce l'élection du pape, on commence par le prénom. Et bien entendu, tout le monde attendait plutôt un Italien à l'époque. Il faut rappeler que Jean-Paul II était le premier pape non italien depuis 4 siècles. Donc tout le monde attendait un Italien. Et donc on commençait par le prénom, et moi j'avais rangé tous les cardinaux sur des papiers, comme ça, par le prénom. J'entends Carolus. Je regarde assez, bien sûr, à la lettre C. Je ne trouve pas de Carolus qui corresponde à ce qu'il disait après. Oh, tira, vous avez entendu.
Oui, oui. Ouais. Bon. Ah, vous le faites bien.
Alors,
hein.
je suis parti sur le K. Et, coup de chance, j'ai trouvé K. J'ai dit, c'est un Polonais. Alors, c'est, évidemment, c'était une surprise absolument. Les Italiens sur la place Saint-Pierre disaient « Et il Polaco ?» Et il Polaco ?» Mais moi, ici, en français... J'ai dit, c'est un Polonais, vraiment. Alors, je me souviens que tout le monde était ébahi, quand même.
Le témoignage en direct, être là où l'histoire se fait, on n'a que le choix dans les archives d'Europe. On va bien évidemment en oublier. Ça donnerait presque le vertige, tant il y en a. Berlin, quand le mur tombe. Tiananmen, quand les chars prennent position. Ou le Hesel, quand le drame survient, en pleine finale européenne.
J'ai sans doute vécu la nuit la plus extraordinaire, la plus exaltante de ma vie depuis la libération de la France. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Lorsque la télévision annonce l'ouverture des frontières, des feux d'artifice éclatent dans les quartiers périphériques. Mais les Berlinois de l'Est n'osent encore croire au miracle. Et c'est à 21h seulement que les premiers se risquent à franchir le mur. Un couple qui passe, le visage baigné de larmes. Et puis, d'autres s'enhardissent à leur tour. Et c'est la ruée. Des centaines de voitures, des milliers de gens à pied se présentent au point de passage du mur où je me trouve dans un concert d'avertisseurs et de cris d'allégresse. Populaires demandent à voir les visas, mais ils sont tellement débordés qu'ils finissent par laisser passer tout le monde sans aucun contrôle. Alors la foule s'engouffre à travers les chicanes. Elle court, encouragée par les clameurs venues de l'Ouest, car des milliers de personnes se sont massées de l'autre côté pour accueillir les arrivants.
Nous sommes au mur de Berlin, nous sommes au checkpoint Charlie.
Oui, je suis désolée de voyager en paix à travers Berlin-Ouest.
Qu'est-ce que vous allez faire à Berlin-Ouest?
Visiter en bus, les curiosités.
Est-ce que vous allez revenir?
Naturellement.
Qu'est-ce que vous ressentez ce soir?
C'est incroyable. C'est une résultat de la politique de notre république.
Est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi le résultat de la pression de la rue?
l'arbre sang de la force du peuple. Je veux.
Je dis, je veux un Johnny.
Pardon, mes champions. Pardon, quoi de sang.
Impossible de circuler dans le centre-ville. Toutes les avenues y conduisant avaient été fermées la circulation sur plusieurs kilomètres, tant la foule était dense. Comme les Chinois, j'ai donc pris une bicyclette pour me rendre à la place Tiananmen dans une pagaille indescriptible. Au bout de la route, la grande place de Pékin, noire de monde, avec d'innombrables banderoles flottant sur cette véritable marée humaine. Ça et là, quelques îlots préservés, les endroits où par petits groupes, des centaines d'étudiants poursuivent la grève de la faim qu'ils ont commencée samedi après-midi. Les infirmeries de campagne continuent à fonctionner, les plus faibles sont évacués en ambulance dans un concert de sirènes qui couvre par moments les clameurs des étudiants. Pékin, Claude Bellet, Europe 1.
Sport Juventini, le support non vogliono giocare, non vogliono la Coppa, non ce ne frega niente, l'abbiamo aspettata 20 anni, l'aspettiamo ancora, non la vogliamo più, non vogliamo giocare.
Les supporters de la Juventus ne veulent pas la Coupe, ils ne veulent pas la jouer, ils ne veulent pas la gagner, on l'attend depuis 20 ans, dit-il, mais on la veut pas ce soir. C'est terrible parce que notre ami, de quelle région êtes-vous? De quelle région êtes-vous en Italie?
Piémont.
Du Piémont. Vous êtes de Turin même?
Alessandria.
Vous étiez venu avec qui? Avec votre famille?
Ma famille est à la maison.
Avec qui vous étiez? Avec des amis?
Depuis cinq amis qu'ils ne trouvaient pas. Cinq amis qu'ils ne trouvaient pas.
Vous ne les avez pas retrouvés depuis?
Ils ne trouvaient pas.
Voilà, vous avez entendu ce témoignage, bien entendu, plein d'émotions. J'ai essayé de vous traduire l'essentiel de l'émotion de ce supporter italien. Je ne sais pas, Charles Villeneuve...
Oui, Eugène, Charles est parti d'un autre côté du studio pour converser avec vous.
Oui, je ne sais pas, Jean-Loup, si vous avez pu comprendre un
peu... Si, absolument, parfaitement.
Les gens en France comprennent l'italien, et il a traduit, je crois, l'émotion générale des supporters italiens, qui, disons-le très franchement... Hein, je crois, nous sommes des observateurs neutres avec les Belges, ont été les victimes de cette sauvagerie des supporters de Liverpool. Hein.
Absolument. En tous les cas, on a parfaitement compris Eugène, et Charles Villeneuve va dialoguer avec vous, mais par d'autres moyens que ce micro dans quelques instants. Le bilan, donc, pour l'instant, on ne peut pas tellement le dire, c'est 30, 32, 34, 36 morts.
Eh bien, le bilan, c'est 36 morts, on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est 36 morts, c'est le bilan officiel donné par les autorités. Et bien. Là, il se passe une nouvelle chose, attendez, peut-être. Non, c'est une impatience, là, de la part des supporters, qui ne savent pas si le match va avoir lieu ou bien s'il va être reporté. Donc, ils voudraient bien qu'on les avise, et ils s'impatientent en criant, ce n'est pas très grave. Donc, pour l'instant... Le calme est revenu et on s'active énormément derrière la tribune centrale du Heysel pour bien sûr apporter les soins à des blessés très très graves. La plupart ont été évacués, mais d'autres ne sont même pas en état d'être évacués. Ils sont soignés derrière nous sous la tribune de presse, sous la tribune centrale du Heysel. Voilà donc le point. Jean-Loup.
Merci Eugène. Charles Villeneuve revient.
Dernière indication, la BBC, la radio et télévision britannique confirme les 36 morts annoncés par la télévision belge. 36 morts.
Voilà, avec par ordre d'apparition à l'antenne, André Ancian à Berlin et avec Frédéric Albert, Claude Bellet à Pékin, Eugène Saccomano en direct du stade du Heysel. On pourrait en ajouter tellement d'autres exemples, des exemples de reportages plus récents, bien évidemment, les exemples ne manquent pas, le crash du Concorde, septembre 2001, le tsunami, et encore tout près de nous, l'Irak.
صدح مفتوح 23h45 rue Al-Riya au centre de Bagdad, une succession de tirs Kalachnikov peut-être mitrailleuse lourde, plus de 5 minutes d'échange de feu, le silence et soudain l'intervention des blindés américains. La dernière maison à droite, la maison suspecte. Les soldats s'engouffrent et les arrestations commencent. Coup de crosse, policiers irakiens déchaînés, soldats américains sur les nerfs. La tension est extrême, les M16 armés, prêts à tirer.
Sit down, be quiet.
I sit down, but not shot.
No.
Puis soudain, la situation dégénère.
Ok, that's fine. You told me you did not shoot. That's fine.
Le blindé a défoncé le mur de la maison. La rue est totalement bouclée. Entre la nuit noire, les lumières des phares, le bruit des moteurs, tout le monde est inquiet.
I can't answer any questions right now. That's what I'm trying to tell you. Very unsafe right now for you to move about or anybody else to move about the area.
Pas de question, c'est très dangereux ici, dit le soldat américain. L'opération de police prend fin au bout d'une heure et demie. Bilan, quelques arrestations, une maison défoncée et une curieuse résignation des habitants de la rue, comme s'il fallait en passer par là. À Bagdad, Nicolas Toneff, Europe 1.
Et qu'est-ce qui sépare le reportage de Nicolas Toneff à Bagdad au début de l'occupation américaine des reportages entendus au tout début de cette émission ? Eh bien, pas grand-chose, ou alors quelques années. La radio est en effet toujours la même, sa philosophie aussi. Une radio qui a toujours été une vraie radio d'information, qui a privilégié l'information, qui a privilégié la recherche du son, la recherche du témoignage, le recul. C'est un média qui est un petit peu un média privilégié pour l'information d'ailleurs, d'une certaine façon, François.
Oui, complètement.
T'as les deux expériences.
C'est rapide, c'est efficace. On peut libérer l'antenne à tout moment. Et on peut casser complètement les programmes parce qu'il y a une actualité prioritaire. Bon, ça c'est Europe 1 qui l'a inventé. Hein. Depuis, il y a les chaînes d'infos continues du câble qui sont pour la radio vraisemblablement un concurrent sérieux dans l'avenir, mais qui n'arrivent pas, à mon avis, à donner autant d'émotions que la radio. On a la radio en permanence sous la main. Et c'est ça qui fait la différence avec les chaînes d'infos continues. Je pense que à ce titre-là, la radio a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir.
Jacques, média favori ?
Oui, bien sûr, parce que ce que vient de dire François est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a une spontanéité dans la radio qu'on n'a pas à la télévision, où il y a fatalement une mise en scène, à la fois une mise en place, à la fois pour l'émetteur et pour le récepteur qui est le téléspectateur, qui doit s'asseoir devant son poste.
Il y a une lourdeur technique de la télé.
Oui, il y a une lourdeur technique qui va... Bon, ça s'améliore, c'est vrai, mais cette lourdeur technique va se prolonger encore longtemps. Et tandis que la radio en plus permet une interactivité qu'elle utilise de plus en plus, puisque finalement on entend de plus en plus de questions des auditeurs qui téléphonent et qui demandent des réponses, qui demandent des témoignages. On entend ça sur Europe 1 à longueur de temps. Et donc je crois que ça, on n'aura pas à la télévision avant longtemps, puisque les témoignages des téléspectateurs, il faudra les amener, il faudra les maquiller, il faudra les installer, etc. L'interactivité, c'est le bonheur de la radio maintenant.
Merci à vous tous, merci à François Ponchelet, à Jacques Duquesne, à tous ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, risquant parfois leur vie, pour vous informer. Les enfants d'Europe 1, c'est chaque lundi et chaque vendredi de 10h30 à midi, donc à très vite.
Vous retrouverez Marc Menant lundi à partir de 9h.